Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau ensemble en ce début de semaine pour nos lectures en liberté et la suite du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Nous allons reprendre les aventures de Bardamu, qui vient d'être libéré de la guerre 14-18 et qui s'embarque pour l'Afrique. Les huiles ont fini par me laisser tomber, et j'ai pu sauver mes tripes. Mais j'étais marqué à la tête, et pour toujours. Rien à dire. Va-t'en, qu'ils m'ont fait, t'es plus bon à rien. En Afrique, que j'ai dit, moi, plus que ce sera loin, mieux ça vaudra. C'était un bateau comme tous les autres de la compagnie des corsaires réunis qui m'a embarqué. Il s'en allait vers les tropiques avec son fret de cotonnades, d'officiers et de fonctionnaires. Il était si vieux, ce bateau, qu'on lui avait enlevé jusqu'à sa plaque de cuivre sur le pont supérieur où se trouvait autrefois inscrite l'année de sa naissance. Et elle remontait si loin, sa naissance, qu'elle aurait incité les passagers à la crainte et aussi à la rigolade. On m'avait donc embarqué là-dessus pour que j'essaye de me refaire aux colonies. Ils y tenaient, ceux qui me voulaient du bien à ce que je fasse fortune. Mais je n'avais pas envie, moi, de m'en aller. Mais comme on doit toujours avoir l'air utile quand on n'est pas riche, et comme d'autre part je n'en finissais pas avec mes études, ça ne pouvait pas durer. Je n'avais pas assez d'argent non plus pour aller en Amérique. Va pour l'Afrique, que je me suis dit alors. Et je me suis laissé pousser vers les tropiques où, m'assurait-on, il suffisait de quelque tempérance et d'une bonne conduite pour se faire tout de suite une situation. Ces pronostics me laissaient rêveur. Je n'avais pas beaucoup de choses pour moi, mais j'avais certes de la bonne tenue, on pouvait le dire, le maintien modeste, la déférence facile et la peur toujours de n'être pas à l'heure et encore le souci de ne jamais passer avant un autre dans la vie. De la délicatesse, en fait. Quand on a pu s'échapper vivant d'un abattoir international en folie, c'est tout de même une référence sous le rapport du tact et de la discrétion. Mais revenons à ce voyage. Tant que nous restâmes dans les eaux d'Europe, ça ne s'annonçait pas mal. Les passagers croupissaient, répartis dans l'ombre des entrepôts, dans les WC au fumoir, par petits groupes soupçonneux et nasillards. Tout ça bien imbibé de picons et cancans du matin au soir. On en rôtait, sommeillait et vociférait tour à tour et semblait-il sans jamais regretter rien de l'Europe. Notre navire avait nom l'amiral Bragueton. Il ne devait tenir sur ses eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral Bragueton à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement des fleuves qui n'en finissent plus. Pour un paquet de lames pilettes, j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves mineurs. C'était promis, la vie, quoi. Rien de commun avec cette Afrique décortiquée, des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah non, nous allions, nous, la voir dans son jus, la vraie Afrique. Nous, les passagers boissonnants de l'amiral Bragueton. Mais dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuve infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bragueton, condamnés à ne plus s'éloigner du bar, envoûtés, rivés au ventilateur, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadences incohérentes. Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquer, libérer, bien débrailler en fait, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instinct, tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait hors les carnages que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est alors qu'on se déboutonne éperdument et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent un moment leur étau, on peut apercevoir des Blancs ce qu'on découvre du gai rivage. Une fois que la mer s'en retire, la vérité, mare lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. Ainsi, le Portugal passé, tout le monde se mit sur le navire à se libérer les instincts avec rage, l'alcool aidant, et aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché, abreuvé pour rien pendant 4 semaines consécutives qu'on y songe, c'est assez, n'est-ce pas, en soi, pour délirer d'économie. Moi, seul payant du voyage, je fus trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut connue, singulièrement effronté, nettement insupportable. Si j'avais eu quelque expérience des milieux coloniaux au départ de Marseille, j'aurais été compagnon indigne, à genoux, solliciter le pardon, la mansuétude de cet officier d'infanterie coloniale que je rencontrais partout, le plus élevé en grade. Et m'humilier peut-être au surplus pour plus de sécurité au pied du fonctionnaire le plus ancien. Peut-être alors ces passagers fantastiques m'auraient-ils toléré au milieu d'eux sans dommage. Mais ignorant, mon inconsciente prévention de respirer autour d'eux faillit bien me coûter la vie. On n'est jamais assez craintif. Grâce à certaines habiletés, je ne perdis que ce qu'il me restait d'amour-propre. Et voici comment les choses se passèrent. Quelque temps après les îles Canaries, j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent, qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie, d'être même un peu cocaïnomane. Mais cela à titre accessoire. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant qu'au début de mes épreuves. C'est alors que j'appris l'usage imposé sur cette ligne de n'accepter qu'avec une extrême circonspection, d'ailleurs accompagnée de brimades, les passagers payants. C'est-à-dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des arrangements bureaucratiques. Les colonies françaises appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des annuaires. Il n'existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s'aventurer de ses côtés. Espion, suspect, on trouva mille raisons pour me toiser de travers, les officiers dans le blanc des yeux, les femmes en souriant d'une manière entendue. Bientôt, les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustiques. On en vint à ne plus douter que c'était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord, et pour ainsi dire le seul. Voilà qui promettait. Je voisinais à table avec quatre agents des postes du Gabon, hépatiques, édentés. Familiers et cordiaux dans le début de la traversée, ils ne m'adressèrent ensuite plus un traître mot. C'est-à-dire que je fus placé d'un tacite accord au régime de la surveillance commune. Je ne sortais plus de ma cabine qu'avec d'infinies précautions. L'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide. À poil, verrou tiré, je ne bougeais plus et j'essayais d'imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre. Je ne connaissais personne à bord. Et cependant, chacun semblait me reconnaître. Mon signalement devait être devenu précis, instantané dans leur esprit, comme celui du criminel célèbre qu'on publie dans les journaux. Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l'indispensable, infâme et répugnant saligo, honte du genre humain qu'on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du diable et du bon Dieu, mais qui demeure toujours si divers, si fuyant, quant à terre et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu, pour l'isoler enfin, le saligo, l'identifier, le tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne rencontrait que sur ce bord étroit. Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral Bragueton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. C'était moi. À lui seul, cet événement valait tout le voyage. Reclus parmi ses ennemis spontanés, je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu'ils s'en aperçussent. Pour y parvenir, je les épiais impunément, le matin surtout, par le hublot de ma cabine. Avant le petit déjeuner, prenant le frais, poilu du pubis aux sourcils et du rectum à la plante des pieds, en pyjama transparent au soleil, vautré le long du bastingage, le verre en main, ils venaient rôter là, mes ennemis, et menaçaient déjà de vomir alentour, surtout le capitaine aux yeux saillants et injectés de son foie qui travaillait ferme dès l'aurore. Régulièrement au réveil, il s'enquérait de mes nouvelles auprès des autres lurons. Si l'on ne m'avait pas encore balancé par-dessus bord, qu'il demandait, comme un glavio. Pour faire image en même temps, il crachait dans la mer mousseuse. Quelle rigolade!
J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Qu'il est long le chemin d'Amérique, qu'il est long le chemin de l'amour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, t'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant. Porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. Les gens s'écarteront, saluant la Madone, en poupe par le col et d'une autre couleur. Qu'il est tout le chemin de l'Espagne, qu'il est doux le chemin du retour. Le bonheur, ça vient toujours après la peine. T'en fais pas, mon ami, je reviendrai. Puisque les voyages forment la jeunesse, je te dirai, mon ami, à ton tour, à ton tour.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous voici de nouveau avec Bardamu sur l'amiral Bragueton, après la musique. L'amiral n'avançait guère. Il se traînait plutôt en ronronnant d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce de maladie. Les membres de ce concile matinal à les examiner de mon coin me semblaient tous assez profondément malades, paludéens, alcooliques, syphilitiques sans doute. Leur déchéance visible à 10 mètres me consolait un peu de mes tracas personnels. Après tout, c'était des vaincus tout de même. Ces matamores. Ils crânaient encore, voilà tout. Seule différence, les moustiques s'étaient chargés de les sucer et de les distiller à pleine veine ces poisons qui ne s'en vont plus. Le tréponème, à l'heure qu'il était, leur limaillait déjà les artères. L'alcool leur bouffait les foies. Le soleil leur fendillait les rognons. Les morpions leur collaient au poil et l'eczéma à la peau du ventre. La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine. Dans pas longtemps que leur resterait-il un bout de cerveau? Pour en faire quoi avec? Je vous le demande. Là où ils allaient? Pour se suicider? Ça ne pouvait leur servir qu'à ça, un cerveau, là où ils allaient. On a beau dire que c'est pas drôle de vieillir dans les pays où il n'y a pas de distraction, où on est forcé de se regarder dans la glace, dont le teint verdit, devenir de plus en plus déchu, de plus en plus moche. On va vite à pourrir dans les verdures, surtout quand il fait chaud atrocement. Le Nord, au moins, ça vous conserve les viandes. Ils sont pâles une fois pour toutes, les gens du Nord. Entre un Suédois mort et un jeune homme qui a mal dormi, peu de différence. Mais le colonial, il est déjà tout rempli d'asticots un jour après son débarquement. Elle n'attendait que ces infiniment laborieuses vermicelles et ne les lâcherait plus que bien au-delà de la vie. Sac à larves. Nous en avions encore pour 8 jours de mer avant de faire escale devant la Bragomance, première terre promise. J'avais le sentiment de demeurer dans une boîte d'explosifs. Je ne mangeais presque plus pour éviter de me rendre à leur table et de traverser leur entrepont en plein jour. Je ne disais plus un mot. Jamais on ne me voyait en promenade. Il était difficile d'être aussi peu que moi sur le navire, tout en y demeurant. Mon garçon de cabine, un père de famille, voulut bien me confier que les brillants officiers de la coloniale avaient fait le serment, verre en main, de me gifler à la première occasion et de me balancer par-dessus bord ensuite. quand je lui demandais pourquoi. Il n'en savait rien. Et il me demandait à son tour ce que j'avais bien pu faire pour en arriver là. Nous en demeurions à ce doute. Ça pouvait durer longtemps. Ben, j'avais une sale gueule, voilà tout. On ne m'y reprendrait plus à voyager avec des gens aussi difficiles à contenter. Ils étaient tellement désœuvrés aussi, enfermés 30 jours durant avec eux-mêmes, qu'il en fallait très peu pour les passionner. D'ailleurs, dans la vie courante, réfléchissons que 100 individus au moins dans le cours d'une seule journée bien ordinaire désirent votre pauvre mort. Par exemple, tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro, tous ceux qui passent devant votre appartement et qui n'en ont pas, tous ceux qui voudraient que vous ayez achevé de faire pipi pour en faire autant, enfin, vos enfants et bien d'autres, c'est incessant aussi fait. Sur le bateau, ça se discerne mieux, cette presse, alors c'est plus gênant. Dans cette étuve mijotante, le soin de ces êtres ébouillantés se concentre. Les pressentiments de la solitude coloniale énorme qui va les ensevelir bientôt et leur destin, les faire gémir déjà comme des agonisants. Ils s'accrochent, ils mordent, ils lacèrent, ils en bavent. Mon importance à moi croissait prodigieusement de jour en jour. Mes rares arrivées à table, aussi furtives et silencieuses que je m'appliquasse à les rendre, prenaient l'ampleur de réels événements. Dès que j'entrais dans la salle à manger, les 120 passagers tressautaient, chuchotaient. Les officiers de la coloniale, bien tassés d'apéritif en apéritif autour de la table du commandant, les receveurs buralistes, les institutrices congolaises, surtout dont l'amiral Bragueton emportait tout un choix, avaient fini de suppositions malveillantes en déductions diffamatoires par me magnifier jusqu'à l'infernale importance. À l'embarquement de Marseille, je n'étais guère qu'un insignifiant rêvasseur. Mais à présent, par l'effet de cette concentration agacée d'alcooliques et de vagins impatients, je me trouvais doté, méconnaissable, d'un troublant prestige. Le commandant du navire, gros malin, trafiqueur et verruqueux, qui me serrait volontiers la main dans les débuts de la traversée, chaque fois qu'on se rencontrait à présent, ne semblait même plus me reconnaître. Ainsi qu'on évite un homme recherché pour une sale affaire, coupable déjà. De quoi ? Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue. Les motifs viennent tout seuls. D'après ce que je croyais discerner dans la malveillance compacte où je me débattais, une des demoiselles institutrices animait l'élément féminin de la cabale. Elle retournait au Congo, crevée, du moins je l'espérais, cette garce. Elle quittait peu les officiers coloniaux au torse moulé dans la toile éclatante et paré au surplus du serment qu'ils avaient prononcé de m'écraser ni plus ni moins qu'un insecte limace bien avant la prochaine escale. On se demandait à la ronde si je serais aussi répugnant aplati qu'en forme. Bref, on s'amusait. Cette demoiselle attisait leur verve, appelait l'orage sur le pont de l'amiral Bragueton, ne voulait connaître de repos qu'après qu'on m'eût enfin ramassé, pantelant, corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d'oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié sous la botte et le poing d'un de ces gaillards dont elle brûlait d'admirer l'action musculaire, le courroux splendide. Scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés pressentaient un réveil. Ça valait un viol par gorille. Le temps passait et il est périlleux de faire attendre longtemps les corridas. J'étais la bête. Le bord entier l'exigeait, frémissant jusqu'aux soutes. La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. Et comme il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive, plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coinça entre deux cabines, au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire qu'il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Il recouvre la mer et le bateau et les cieux. Des gens solides en deviendraient bizarres, à plus forte raison, ces abrutis chimériques. Un sacrifice, j'allais y passer. Les choses se précipitèrent un soir après le dîner où je m'étais quand même rendu, tracassé par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m'éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient assises ou le derrière une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent à ma surprise à me parler librement et complaisamment de duels et d'estocades, à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo, celle qui avait l'haleine si forte, se dirigea vers le salon. J'eus le temps de remarquer qu'elle portait une robe en guipure de grand apparat et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée pour jouer, si l'on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré, il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'en menais pas large, le cœur battant à la hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale, me fit présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l'effet d'un morceau de la guerre qu'on aurait remis brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin. Derrière lui, me bouclant la porte de l'entrepont, se dressaient en même temps 4 officiers subalternes, attentifs à l'extrême escorte de la fatalité. Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémison des troupes coloniales. Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau, justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables. Voici le moment, monsieur, d'articuler bien haut vos griefs, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis 21 jours, de nous dire enfin ce que vous pensez. » Nous avons terminé pour ce soir la suite de ce roman de Louis-Ferdinand Sénine que nous reprendrons demain, avec la suite des aventures de Bardamu. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.